Premier temps d'une semaine consacrée à la sexualité et à son histoire dans la fabrique de l'histoire. Demain, le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard nous dresse le curieux portrait d'Eugénie Guilloux, ancienne novice à Notre-Dame de Sion, devenue tenancière de maison de rendez-vous au tournant des 19e et du 20e siècle. Redécouverte récemment par Daniel Grolzowski, qui vient de lui consacrer un livre. Mercredi, grâce à des documents d'archives, nous tenterons de comprendre comment s'est mise en place une éducation sexuelle en France. Jeudi, nous nous interrogerons sur les difficultés pour les historiennes et les historiens à nous approcher de l'intimité des personnages du passé avec Christelle Tarot, Anne Urbain et Emmanuel Retailleau-Bajac. Et aujourd'hui, me direz-vous, nous allons justement nous poser une question simple et compliquée à la fois. Comment peut-on raisonnablement connaître en historien ou en historienne la sexualité telle qu'elle se pratiquait à Sumer ou à Babylone? Nous le ferons en compagnie d'une des meilleures spécialistes de cette histoire, Véronique Grandpierre, auteure d'une histoire de la Mésopotamie en folio Gallimard. Et l'an dernier, c'était exactement il y a un an, de Sexe et amour de Sumer à Babylone, toujours en folio histoire, un inédit chez Gallimard. Et que dit-elle dans l'introduction de cet ouvrage, Véronique Grandpierre ? La chair est concrète, les sentiments sont, eux, plus difficiles à cerner. Il n'y a guère de preuves épigraphiques, encore moins archéologiques, de l'engagement d'un être. Elle permet cependant d'esquisser les grandes lignes de la sphère du privé et de l'intime, jusque dans ce plaisir que l'on dit charnel. Bonjour Véronique Grandpierre.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour ouvrir cette semaine consacrée donc à l'histoire de la sexualité dans la fabrique de l'histoire. Alors d'abord une question simple, comment peut-on savoir ce qu'était l'amour et ce qu'était la sexualité à Sumer et à Babylone aujourd'hui ?
L'amour c'est très difficile, comme toujours. Comme j'ai écrit, il n'y a pas de preuve de l'engagement d'un être. Des preuves peut-être, des preuves archéologiques, des preuves matérielles, on n'en trouve pas. En revanche, on peut trouver énormément de preuves en tout ce qui concerne la sexualité. Nous avons, à Sumer et à Babylone, l'extrême chance d'avoir, contrairement aux autres époques, aux autres périodes de l'Antiquité ou aux autres époques, énormément de textes dits de la pratique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un texte de la pratique, vous me direz ?
Oui.
Un texte de la pratique, c'est un texte que l'on garde pour faire preuve. On a ainsi des jugements.
Pour attester d'une certaine
façon. Pour attester quelque chose.
D'une pratique.
Un constat d'adultère, par exemple. Un jugement suite à un adultère. Ça, c'est du sexe. Ce n'est pas de l'amour. On dirait que c'est aussi de l'amour si on aime son amant. Mais bon. On a des recueils d'incantations.
On a des textes mythologiques.
On a des textes mythologiques. On a des prières. On a des potions. Pour être un petit peu plus viril. Ou pour que son mari soit un petit peu plus viril. On a plein de choses qui sont en fait des choses concrètes.
Et ce sont des sujets sur lesquels les historiens, les historiennes de la Mésopotamie s'étaient penchés avant vous, ou est-ce qu'au bout du compte, ça faisait partie d'une sorte de second rayon, une littérature de second rayon qu'on n'allait pas véritablement voir, Véronique Grandpierre ?
Alors, ce n'est pas une littérature de second rayon parce que beaucoup de ces sources ont été étudiées en tant que sources issues d'un site. C'est une particularité lorsque l'on travaille sur la Mésopotamie, c'est-à-dire sur les régions comme la Syrie, comme l'Irak. On est en général associé à un site. Et donc, on traduit d'abord toutes les tablettes qui sont issues du site.
Et on en trouve des centaines, voire des milliers.
Exactement. Et de toutes les époques. Quand je dis toutes les époques, c'est-à-dire du 3e millénaire avant Jésus-Christ au 1er millénaire après Jésus-Christ.
Donc, il faut se dire pour nos auditeurs qu'effectivement, on va parler d'une période très longue, plusieurs millénaires d'histoire.
Avec plusieurs peuples.
Voilà, géographiquement assez large, avec de très nombreuses cités qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Et donc, qu'il faut, quand on fait un livre de synthèse comme le vôtre en moins de 300 pages chez Gallimard, il faut donc synthétiser des expériences qui ont eu lieu sur des millénaires d'histoire et pas sur des siècles d'histoire, sur des millénaires d'histoire, Véronique Grandpierre.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut relever les grandes constantes.
Et les grandes évolutions.
Les grandes évolutions également.
Et donc ces constantes, si on part par exemple de ce troisième millénaire avant, qui est le point de départ, puisque c'est là où on trouve déjà les premiers textes que l'on a recueillis sur ces sites archéologiques, ça nous permet de voir quoi ? Déjà un rapport entre l'homme et la femme qui change à travers les récits météorologiques, qui nous dit que peut-être, Est-ce que c'est mythologique, là encore? La femme avait un autre rôle, une autre place dans les sociétés d'avant ce troisième millénaire qui change au cours du troisième et du deuxième millénaire. Ça, on peut le dire, ou c'est déjà s'avançait beaucoup, par exemple, Véronique Grandpierre?
On peut dire que les textes en parlent. Mais est-ce que ça a eu lieu au troisième millénaire, avant Jésus-Christ, ou est-ce que ça a eu lieu bien avant?
Ou est-ce que c'est une sorte de vision mythologique?
Exactement, là on n'en sait rien. Ouais. Pour être clair, on n'en sait rien.
Ouais. Donc on peut faire fond sur ces textes-là pour se dire, en tout cas, des contemporains du troisième millénaire et du second millénaire pensaient qu'auparavant il y avait une sorte de règne des femmes un peu différent peut-être, et qui se serait transformé au cours du troisième millénaire en une position différente de la place des hommes et des femmes dans ces sociétés de Mésopotamie. Ça, on peut le dire ou pas?
Que la place des femmes ait été différente, oui, vraisemblablement, puisque toutes les villes au départ avaient comme divinité polyade, donc comme divinité protectrice, des déesses et non pas des dieux. Que ces grandes déesses sont aussi celles qui sont à l'origine, dans la mythologie sumérienne, de toute l'apparition des techniques. Puis cela change, elles sont toutes remplacées par des grands dieux et des dieux polyades. On sait que cela
qui
change.
Qui protègent aussi d'autres cités, des cités.
Voilà. En revanche, on ne peut pas dater la période du changement. Mmh. On sait que des textes du troisième millénaire en parlent, ça ne veut absolument pas dire que ça s'est passé au troisième millénaire. Ça peut s'être passé au millénaire précédent. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'écrit pour les millénaires précédents, puisque l'écriture n'a pas encore été, enfin, on n'a pas encore trouvé de texte écrit que l'on puisse comprendre du 4e et 5e millénaire avant Jésus-Christ.
Alors, on a donc cette certitude qu'il y a dans ces diverses cités des divinités multiples, donc une sorte de polythéisme. On y regarde de plus près et on se dit, parce qu'on pense évidemment au polythéisme qui nous est le plus commun, c'est-à-dire les Romains et les Grecs, y a-t-il des comparaisons? Ont-ils des pratiques, ces dieux semblables aux dieux mésopotamiens? On s'aperçoit en vous lisant, Véronique Grandpierre, que, eh bien non, a priori, par exemple, les amours des humains avec les dieux ne sont pas possibles, que les amours n'ont lieu que dans ce domaine divin entre dieux et déesses et simplement entre dieux et déesses. Déjà, ça nous fait une petite différence par rapport à ce qu'on imagine connaître de cette antiquité polythéiste, Véronique Grandpierre.
Oui, il y a une différence parce que, en fait, le monde des humains est imaginé comme un reflet du monde divin. Donc, les dieux sont avec les dieux, et en miroir, vous avez les humains qui sont avec les humains. Chacun est à sa place. Chez les Sumériens, chez les Babyloniens, vous avez une société où chacun, de toute façon, c'est une constante, doit toujours être à sa place. Un homme est un homme, une femme est une femme, juridiquement, sur le plan juridique.
Un esclave?
Un esclave, un esclave.
Mmh. Mais un esclave peut changer de situation, puisqu'on peut être esclave temporairement, mais pas toute la durée de sa vie, par exemple.
Oui, par exemple, si vous êtes esclave parce que vous avez été fait prisonnier à l'issue d'une guerre, on peut vous racheter. Si vous êtes esclave parce que vous avez contracté des dettes que vous n'avez pas pu rembourser et qu'on vous a vendu temporairement, que votre père vous a vendu temporairement ou que votre mari vous a vendu, à ce moment-là, effectivement, vous n'êtes pas forcément esclave toute la vie. Il ne faut quand même pas se leurrer. C'est quand même très difficile, une fois qu'on est esclave, de retrouver sa liberté.
Alors, le sexe joue quel rôle pour ces dieux et pour ces déesses dans la mythologie, mettons, de cette Mésopotamie, Véronique Grandpierre? Est-ce qu'il a un rôle important? On imagine qu'il a un rôle de fécondation, en particulier le sexe masculin. On voit dans certains des textes que vous présentez dans votre livre sur sexe et amour de Sumer à Babylone chez Gallimard, on voit effectivement le pénis pénétrer la terre pour pouvoir justement féconder cette terre et donc la rendre fertile. Il y a cette dimension-là, Véronique Grandpierre, dans la question de la sexualité vue par les Mésopotamiens du 3e ou du 2e millénaire?
Alors, la fertilité est très importante. C'est, si vous voulez, d'après la méthodologie, en fait, toute la Mésopotamie, cette espèce de grenier à blé, avec ses rigoles d'irrigation, ses grands fleuves, etc., ça ne peut être mis en valeur, justement, que par l'arrivée de l'eau, et donc d'un liquide. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est mythologie, ces grands dieux ont servi à féconder, à rendre la terre féconde. De même que le mari rend fécond sa femme. Vous avez exactement la même métaphore.
Donc,
entre la Mésopotamie en elle-même, ou le jardin, et d'un autre côté, le sexe de la femme qu'on va traité de la même façon.
Alors donc, on voit bien cette dimension-là, mais on voit aussi dans chez ces dieux et chez ces déesses, effectivement, des sortes de conduites autorisées ou interdites qui disent peut-être que dans la société, on le verra un peu plus tard en vous suivant, Véronique Grandpierre, eh bien, certaines conduites sont autorisées ou interdites. Le viol, par exemple, est une conduite qui n'est pas autorisée a priori, même aux dieux, et lorsqu'il a lieu, ça veut dire quelque chose, Véronique Grandpierre.
Exactement. Ni le viol ni l'inceste ne sont permis. Et lorsque un viol et un inceste ont lieu, ou un inceste ont lieu, il faut absolument là une explication. La seule explication qui est donnée, c'est que déjà, si ça a pu se passer, c'est parce qu'il n'y avait pas encore de loi. Donc le dieu l'a fait sans savoir qu'il transgressait une loi. Il ne pouvait d'ailleurs pas la transgresser puisqu'elle n'existait pas. Ça se passe mal, pour le dieu d'ailleurs, pour tout le monde, en règle générale. Et donc, à partir de ce moment-là, on le met en exemple en disant « Vous voyez ce qui s'est passé même pour un dieu ?» Et donc, il ne faut pas le faire.
Alors, on voit aussi des métaphores géographiques ou des métaphores donc qui sont liées à la nature, le fleuve plutôt féminin évidemment, le roseau qui est plutôt masculin d'après ce que j'ai cru comprendre, mais aussi le roseau ça peut être la métaphore des poils du pubis de la femme, et donc à partir de ce moment-là, on peut imaginer effectivement transcrire, traduire, comprendre justement ce que disent ces mythologies et ce que disent ces mythes de la vision d'une sexualité donc dans cette Mésopotamie au 3e ou 2e millénaire. C'est cela, Véronique?
Oui, tout ce qui est humide est fécondant et fécondable.
Oui.
Ça, c'est fécondant et fécondable.
Alors donc, si on avance, parce que votre livre donc est composé de 6 chapitres, on s'aperçoit donc en vous lisant qu'il y a évidemment à réfléchir sur le statut du sexe dans la société, donc le statut de la pratique sexuelle dans le cadre en particulier du mariage, bien évidemment, mais aussi des écarts au mariage, pourrait-on dire, et on y viendra peut-être un peu plus tard avec vous. Mais arrêtons-nous déjà sur cette question du statut individuel de l'homme, de la femme, de l'esclave, de qui a le droit de faire l'amour avec qui dans cette société, et ça n'est pas évidemment égalitaire en l'occurrence, Véronique Grandpierre.
Pas du tout. Nous sommes dans une société totalement inégalitaire, puisque nous avons à la fois des gens qui sont libres, des gens qui sont esclaves. Au sein des libres, vous avez l'homme et la femme dans le mariage. Mais ce mariage n'est pas égalitaire. Un homme est pas le propriétaire, mais le responsable juridique de sa femme. De même que elle était soumise à son père, elle va être soumise à son mari, qui peut éventuellement jusqu'à la vendre, en cas de dette, ou s'il a commis une faute très grave, comme violer une autre personne, c'est sa femme à lui qui sera violée.
Ah bon ?
Oui. C'est... comme peine. Ouais. On la considère comme prolongement juridique de son mari dans ce cas-là.
Alors c'est...
Ça change quand même beaucoup les choses sur l'inégalité.
Bien sûr. Et donc ces femmes et ces hommes ont donc des droits différents puisqu'il est autorisé par exemple à un souverain, à un roi d'avoir deux épouses légitimes, deux autres secondaires d'une certaine façon. Et de multiples concubines s'il le souhaite. Évidemment, ce droit-là n'est pas accordé à la reine. Il n'y a que le roi qui a le droit, par exemple, j'imagine, en l'occurrence.
Alors oui, le problème des rois est un petit peu différent. Les rois sont polygames, les particuliers sont monogames. Les rois sont polygames parce qu'à chaque fois qu'il y a un contrat d'alliance signé avec un pays étranger, il se termine par un contrat de mariage, de manière à sceller l'union. Donc le roi a effectivement beaucoup de femmes et beaucoup de concubines, ce qui pose parfois quelques problèmes entre les femmes et les concubines. Mais il n'y a pas de... Effectivement, bien évidemment, les femmes n'ont pas le droit, elles, d'avoir plusieurs hommes.
Oui, parce que... alors, je ne sais pas comment ça se prononce, une inscription du roi de Lagash, je ne sais pas que c'est Lagash. Lagash. Donc, aux environs de 2350 avant Jésus-Christ, dit, les femmes d'antan avaient l'habitude d'avoir deux maris, les femmes d'aujourd'hui ont renoncé à ce crime. Donc on voit bien effectivement que c'est considéré comme un crime d'être polyandre, donc d'avoir plusieurs maris quand on est une femme.
C'est considéré comme un crime à partir du moment où on est une femme mariée. Quand si on n'est pas une femme mariée, ça n'est pas un crime. Mais une femme mariée, l'objectif étant d'avoir un enfant légitime, une femme mariée ne peut avoir que son mari comme partenaire sexuel.
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement ça fait une différence par rapport à ce qu'on imagine être la règle peut-être plus tardivement, donc plus proche de nous. C'est qu'effectivement, vous nous expliquez, Véronique Grandpierre, dans votre livre « Sexe et amour » de Sumaira Babylone, que si on est une femme et qu'on n'est pas mariée, on n'a pas toutes les libertés sexuelles bien entendu, mais disons qu'une certaine liberté sexuelle est envisageable, en particulier donc par exemple dans des maisons de rendez-vous, dites-vous, c'est possible, on peut l'imaginer, mais évidemment, et donc que la question de la virginité est posée, mais de façon un peu ambiguë et différente de ce qu'on a pu imaginer, en l'occurrence Véronique Grandpierre.
Oui, parce que la virginité n'est pas une valeur positive en soi, elle est une valeur financière, ce qui est tout à fait différent. Si vous voulez, une femme est réellement une femme une fois qu'elle est devenue mère. Donc elle ne peut pas être à la fois vierge et mère. Bon. En même temps, une jeune fille, si elle n'est pas vierge, ça veut dire que lorsqu'elle va se marier, si elle a un enfant assez rapidement, de qui est l'enfant ? Donc il vaudrait mieux qu'elle soit vierge. Donc on va la marier le plus rapidement possible.
C'est cela.
Mais ça n'est pas un impératif.
Alors, on va se dire même que lorsque un couple n'a pas d'enfant mâle, par exemple, eh bien, elle, et donc n'a qu'une fille, par exemple, eh bien, ce couple-là peut imaginer de transformer cette fille en homme, c'est-à-dire en faire une femme et un homme à la fois, pour en faire l'héritier mâle de la lignée, tout en restant donc avec ce statut de femme, ce qui apparaît assez étrange aujourd'hui, effectivement, puisque nos vieux pays de loi salique, évidemment, ont éliminé cette possibilité depuis fort longtemps, en l'occurrence Véronique Grandpierre.
Alors, c'est parce qu'on distingue à l'époque le sexe biologique, le statut social et le statut juridique. Biologiquement, la fille va rester la fille. Juridiquement, elle va rester la fille, donc soumise à son père et à son futur mari. Mais socialement, on a besoin d'elle parce qu'on a on n'a personne d'autre pour pratiquer le culte des morts. Or ça, c'est un élément fondamental des sociétés mésopotamiennes. C'est que l'on pense que l'on survit d'une façon particulière après la mort et que les conditions de la survie dépendent du fait que l'on pratique ou non le kispoum, c'est-à-dire le culte des défunts. Si vous n'avez personne pour faire votre culte des défunts, vous avez une vie dans le monde des morts épouvantable. Donc il vous faut quelqu'un.
Alors, quand on est femme, on peut être femme, fille, non mariée, mariée très tôt, nous expliquez-vous, Véronique Grandpierre, pour justement protéger, en l'occurrence, la virginité de la jeune fille. Ensuite, femme mariée. Et on peut aussi ne pas être mariée, ne pas être fille, et être alors quoi ? Prostituée, être femme publique ? Qu'est-ce qu'on est dans ces cas-là, dans ces
plein
sociétés babyloniennes, ces sociétés mésopotamiennes ?
On peut être grande prêtresse. Ça, c'est un statut social extrêmement élevé. À ce moment-là, on n'a pas le droit d'avoir d'enfant, mais on peut avoir des relations sexuelles.
C'est-à-dire des relations sexuelles qui n'engendrent pas, d'une certaine
façon. Qui n'engendrent pas d'enfant.
Ouais.
On peut être voué à un dieu. Là, on peut être marié et on peut avoir des relations sexuelles sans avoir d'enfant ou en ayant la possibilité d'avoir des enfants, suivant les lieux. On peut être tout un tas de choses. On peut être une espèce de gaïcha, on peut être une femme toute célibataire. On peut être aussi effectivement une prostituée à l'intérieur d'un bordel ou à l'ombre des remparts si on n'a pas les moyens. En fait, tout dépend du niveau social initial de la femme. Est-ce qu'elle a les moyens de s'entretenir elle-même de par une fortune personnelle ou est-ce qu'elle est obligée de vivre de ses charmes.
Alors que
quels sont ses charmes ?
Oui, voilà. Alors, que sait-on, par exemple, de l'existence ou pas du travestissement ? Donc, dans ces sociétés, vous semblez dire effectivement que lorsqu'on est, on n'a pas encore cité son nom, on aurait dû le citer depuis le début. Dans un temple d'Ishtar, donc cette déesse considérée comme la déesse de l'amour en particulier. Donc, quand on est dans un temple d'Ishtar, il y a peut-être, dites-vous, des équivalents ou des sortes de travestis, par exemple, à l'intérieur de ce temple-là. On n'en a pas tout à fait la preuve, mais on le pense tout de même. Véronique Grandpierre, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, par exemple, sur ce type de sexualité ?
Alors, ce type de sexualité est accepté. Ça ne veut pas dire qu'elle est promue, mais elle est acceptée. En fait, la déesse Ishtar est celle qui accepte tous les types de sexualité possibles et imaginables.
C'est pour ça qu'elle fait peur d'une certaine façon. Elle est à la fois extrêmement tentatrice, mais extrêmement troublante pour tous les Babyloniens ou tous les Mésopotamiens, parce qu'effectivement, tout semble possible avec elle et les interdits semblent levés. C'est cela aussi.
Tout à fait.
Et donc, ça sème le trouble chez les contemporains. Le désir et le trouble à la fois.
Le désir et le trouble au sens non perturbateur du terme. Mmh.
Donc, elle sert d'une certaine façon, cette déesse Ishtar sert de réceptacle à beaucoup de fantasmes aussi, d'après ce qu'on croit savoir, de ces sociétés mésopotamiennes.
Elle sert de réceptacle à beaucoup de fantasmes, surtout de notre époque contemporaine, mais surtout des Grecs anciens. Elle donne aussi une place à chacun dans la société.
Oui.
Elle permet à chacun de trouver une place. En même temps, elle est terrifiante parce que une des plus grandes malédictions qu'on puisse prononcer, c'est d'en appeler à Ishtar pour renverser la sexualité d'un homme et faire de lui une femme.
Ah oui, parce qu'effectivement, elle a cette possibilité.
Elle a cette possibilité.
Elle peut changer l'homme en femme, la femme en homme aussi.
Elle peut faire tout.
C'est-à-dire qu'elle a tous les pouvoirs. Elle est plus puissante, a priori, comme cela, en tout cas en matière de gouverner sa sexualité, elle est plus puissante que tous les autres dieux.
Oui. C'est une espèce de force qu'il faut canaliser.
Et qui canalise cette force alors dans la société? Ce sont les prêtres et les prêtresses qui servent ces temples-là? Sont les religieux qui entourent justement cette déesse Ishtar?
C'est elle qui permet aussi, elle est aussi la protectrice. C'est une force qui n'est pas forcément maléfique, c'est une force qui... Elle a tous les visages, Ishtar. Elle est à la fois celle qui est l'amante, elle n'est pas la mère, elle n'a pas d'enfant, mais c'est l'amante, au sens propre du terme. C'est aussi, elle n'est pas la mère, mais c'est celle qui va protéger l'héritier. Parce qu'elle va le protéger avec la fureur, la même fureur, la même force qu'elle va mettre dans un orgasme, par exemple.
Alors, si on avance et si on s'aperçoit qu'il y a dans ces sociétés-là, comme dans toutes les sociétés évidemment, un lien très précis entre la loi, le droit et la question religieuse, on s'aperçoit qu'il y a des tentatives d'application justement de ces visions que l'on a du dieu ou des déesses, donc avec la vie quotidienne. Est-ce qu'on se sert en miroir de ces personnages-là pour nous dire la conduite que l'on doit tenir ou pas du tout, en l'occurrence Véronique Grandpierre?
Non, on se réfère plutôt aux recueils de lois, qui sont en fait des recueils de jurisprudence sur tel ou tel fait qui se sont déjà passés et sur lesquels on a donné telle ou telle sentence, qui sont en général assez dures, étant donné qu'il n'y a pas de prison à l'époque.
Oui, ça n'existe pas.
On a une prison uniquement en attente de son jugement. Mais si on a enfreint une règle de la société, si on a nui à la société ne va pas vous prendre en charge en même temps. Donc les peines sont souvent très définitives.
Il est 9h30 sur France Culture en ce lundi matin. Vous le savez peut-être et on vous en avertit puisque vous avez choisi quelqu'un pour pouvoir nous rejoindre. À 9h30, c'est l'heure de votre invité. C'est une femme qui entre. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Ah, mais oui, bien
bonjour.
Sûr, c'est Agnès Vache, j'aurais dû la reconnaître. Bonjour, vous nous présentez Agnès Vache, donc historienne, spécialiste de la question en particulier du mariage, mais d'autres questions de ce type-là. Pourquoi avez-vous choisi de faire venir Agnès Vache?
Parce que nous sommes dans le Proche-Orient ancien, à l'origine quand même d'un certain nombre de choses, y compris des éléments qui se retrouvent dans d'autres religions, comme les religions monothéistes, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et Agnès a beaucoup travaillé sur tout ce qui était mariage, notamment son dernier livre, Où va le mariage, et également sur l'histoire de l'adultère. Or, beaucoup de mes sources... sont en fait des sources issues des constats d'adultère.
Oui, c'est le chapitre 4 de votre livre, en l'occurrence, qui s'appelle « Amours illicites et infractions sexuelles », en l'occurrence, Véronique Grandpierre. Qu'est-ce que vous y dites? Eh bien, effectivement, que la femme adultère peut être sanctionnée, mais pas le marivolage, à condition qu'il choisisse ses partenaires parmi des célibataires. Déjà, ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'aller coucher avec une femme mariée, parce que là aussi, lui peut être condamné. C'est cela, l'amant peut être condamné s'il touche à cette institution.
Exactement.
Du mariage. C'est cela, Véronique Grandpierre?
Exactement. Et à ce moment-là, les peines seront identiques pour la femme adultère et son compagnon. pas son compagnon amant.
Et donc, ça peut aller jusqu'à la peine de mort, en l'occurrence.
Il y a trois possibilités. Soit le mari pardonne, et à ce moment-là, il est obligé de pardonner aux deux partenaires. Soit il y a une mutilation, et les mutilations sont à ce moment-là symétriques. Mm-hmm. Soit c'est la noyade.
Et pourquoi la noyade ? Parce qu'on est proche des grands fleuves. Non, je pose la question, pourquoi la noyade comme, est-ce qu'il y a une symbolique de la noyade ?
Alors, on s'est beaucoup posé la question sur la noyade. Alors, effectivement, on est près d'un grand fleuve. Deuxièmement, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un petit peu un jugement, une purification par les eaux. Très sincèrement, il n'y a aucun texte qui nous dise ce que cela reflète comme symbole. Et on les extrapole souvent à partir de sources postérieures.
Alors, on voit par exemple, ce qui nous rappelle évidemment des scènes plus contemporaines, qui datent du XXe siècle, qu'une femme adultère peut être mise nue, on lui rase le sexe et on la jette à l'intérieur de la ville, sans savoir d'ailleurs, puisque la tablette semble cassée, donc on ne sait pas très bien comment ça se termine. Mais en tout cas, on la jette en pâture dans la ville, un peu comme on a jeté à la fin de la Seconde Guerre mondiale des femmes tondues dans les villes d'après la Seconde Guerre mondiale, Véronique Grandpierre.
Tout à fait. Quoi qu'il en soit, les peines où il y a une nudité sont toujours des peines infamantes. Je pense que ça doit être à peu près la même chose d'ailleurs à d'autres époques.
Agnès Walsh, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, ce sont des peines infamantes, mais qui sont dans l'Occident des peines plutôt ridicules. C'est-à-dire que dans notre Occident, à partir de l'époque, disons, médiévale, on a ce même genre de scène que l'on retrouve pour les femmes adultères, voire les amants, mm-hmm. où on met le couple, on le juge sur un âne et on les fait courir dans la ville. On dit en chemise, donc on les met jamais nus. On les dévêtit au maximum et les gens peuvent les insulter et ils sont obligés de faire le tour de la ville, du petit village, tous les deux, sous les quolibets de chacun. Mais c'est plus pour tourner en ridicule les personnes plutôt que... Enfin, l'issue n'est pas une issue générale mortelle.
Mmh. En revanche, quand un mari retrouve sa femme qui est installée sur son amant dans un endroit donc de la maison, là, il la lie, il l'attache, là aussi, comme on vient mm-hmm. de le raconter, il l'attache l'homme et la femme ensemble, il les emmène au tribunal pour bien prouver qu'ils étaient ensemble, donc en train de faire l'amour, en l'occurrence Véronique Grandpierre.
Exactement, et s'ils sont trouvés à la maison, ça veut dire que la femme a ouvert la porte, et si la femme a été trouvée au-dessus de l'homme, c'est bien la preuve qu'elle n'a pas été violée.
Mm-hmm. Parce qu'on fait quand même tout le temps la différence entre le viol et l'acte d'amour consentant, en l'occurrence Véronique Grandpierre.
Oui, c'est même là, j'allais dire, l'élément fondamental dans les procès. Est-ce que la femme était consentante ou pas ? Est-ce que par son attitude, elle a pu suggérer à l'homme, elle a pu séduire l'homme ? Quelle était l'attitude de la femme ? Une femme normale n'ouvre pas la porte à un inconnu, ne le fait pas monter dans la chambre, ne s'allonge pas dans un lit avec lui. Une femme normale, normalement, n'ouvre même pas la porte, en tout cas ne le fait pas rentrer.
Agnès Walsh.
Oui, alors, en Occident, moi, ce que je connais, il n'y a pas de procès véritablement de flagrant délit. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais trouvé dans des sources des personnes qui...
Donc, qui avaient travaillé sur l'histoire de l'adultère.
Voilà, tirent les femmes par les cheveux et les amènent devant le tribunal. Alors, tout simplement parce qu'il y a un effet qui court-circuite un petit peu ce phénomène, c'est que le mari qui surprend sa femme dans un état d'adultère peut la tuer et tuer l'amant. Il sera gracié par les tribunaux. C'est
ça,
le rare cas. À toutes les époques, parce que même dans le code civil après Napoléon, ça reste vrai. Voilà, ça reste vrai. C'est-à-dire que le mari, voyant sa femme dans une étrange position, est pris d'une fureur incontrôlable. Et le fait qu'il soit dans cette fureur que l'on excuse...
C'est ce qu'on appelle le crime passionnel.
C'est pas un crime passionnel, parce que c'est pas la passion qui conduit.
C'est plutôt la passion déçue.
C'est la passion déçue, voilà. Mais le voilà, c'est le seul cas où le mari. Alors, le mari, lui, aura un procès. Donc c'est comme ça qu'on connaît ces affaires. Mais le procès débouche sur une sanction qui, même s'il est il sera pardonné, c'est-à-dire qu'il obtient les lettres de rémission des souverains, etc. Donc on est là dans un cadre un peu différent. Les procès que l'on trouve pour adultère sont des procès où il n'y a jamais de flagrant délit, où le mari est obligé de monter un gros dossier en essayant de montrer et de démontrer que sa femme n'est pas une femme digne de ce nom.
Voilà. Alors, Véronique Grandpierre, on se dit, pour avoir lu quelques anthropologues qui parlent de ces questions de parenté, de filiation, d'amour et de relations entre amants, qu'il doit y avoir des interdits tout de même. Alors, vous les avez cités pour certains d'entre eux. L'adultère, pour la femme, effectivement, fait partie de ces interdits. L'inceste en fait partie aussi, mais pas tous les incestes, visiblement. Vous trouvez des traces de l'inceste père-fils ou père-fille et mère-fils. Mais alors là, condamné, évidemment. Mais en revanche, frère-sœur, vous n'en trouvez pas. A priori, on n'a pas trouvé de trop de traces de ces questions-là, par exemple, Véronique Grandpierre.
Non, mais il ne faut pas non plus oublier que nous sommes dépendants des sources.
Bien sûr. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. En revanche, on peut constater qu'on n'en a pas trouvé.
Les relations sexuelles avec les animaux, la zoophilie...
On n'en parle pas, mais là, c'est logique. Pour une bonne raison, c'est que comme on a des sources judiciaires, vous n'aurez jamais une brebis ou un âne qui ira porter plainte. Vous aurez un propriétaire qui ira porter plainte parce que éventuellement l'animal aura un peu souffert du rapport sexuel, mais à ce moment-là, ça arrivera dans la catégorie animaux endommagés et non pas relations sexuelles.
Alors, il y a aussi la question du rapport des amants entre eux ou des attaques aux organes sexuels. Frapper une femme qui est enceinte, c'est grave. Frapper un homme aux testicules, c'est grave également. Et donc, ça peut se retrouver devant un tribunal, Véronique Grandpierre. C'est comme ça qu'on le sait, en tous les cas.
Oui, c'est comme ça qu'on le sait. Et c'est comme ça qu'on sait aussi que l'important, c'est le statut de la victime. Autrement dit, s'il y a atteinte aux organes sexuels d'un homme, c'est grave. Si c'est par un homme, c'est grave. Si c'est par une femme, alors là, c'est épouvantable.
C'est vrai ?
Eh oui. Parce qu'à ce moment-là, il y a une transgression de sa position sociale dans la société. Une femme étant inférieure à un homme, elle ne peut pas, elle ne devrait pas porter la main sur un homme.
Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça?
À l'époque, à l'époque.
Mais on est dans une société extrêmement inégalitaire, oui. Très très inégalitaire. En Occident, disons, le droit, après, même jusqu'à l'époque moderne, est beaucoup plus égalitaire. Et même si, effectivement, la femme, c'est toujours la femme qui est victime soit de son infidélité, soit de viol, etc., et qu'il est difficile de lui trouver des réparations, elle est quand même beaucoup plus protégée. Voilà.
Et vous, qu'est-ce que vous apprenez en tant que spécialiste de l'adultère, du mariage, des relations amoureuses,
oui.
Aujourd'hui, donc, et puis dans l'époque, disons, contemporaine, depuis la Révolution française, qu'est-ce que vous apprenez de ce que vous pouvez lire, justement, chez une spécialiste de la Mésopotamie, et donc des 3e et 2e millénaires? Alors, ça sert à quoi, d'une certaine façon, à l'historienne du contemporain, que de se confronter à cette antériorité de quelques millénaires en arrière, Agnès Walsh?
La première remarque, c'est que tout ça est une construction, c'est une représentation du monde. Et là, vraiment, c'est absolument passionnant, parce que la représentation du monde chez les Babyloniens, cette espèce d'explication d'où vient, c'est quoi la sexualité, la génération, mettre au monde des enfants, enfin, tout ça, c'est absolument fabuleux de se dire qu'il y a une construction intellectuelle
qui est éloignée de la nôtre.
Alors oui, oui et non. Alors oui, surtout parce que le statut social a beaucoup changé. C'est-à-dire que cette inégalité a été remplacée. Là, je pense que c'est quand même beaucoup dû au christianisme. Hein. Et le message, bon, parce que nous sommes des sociétés qui vivons plutôt sur un apport chrétien. Et le message, le premier message, c'était il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Et ça se réalise. C'est tout à fait vrai. Donc ça, je pense que ça, c'est extrêmement intéressant. Je dirais c'est ça, c'est une société profondément inégalitaire. Donc comment on fait pour gérer les rapports sociaux et les rapports de sexe dans ces genres de sociétés inégalitaires? Et alors l'autre réflexion, c'est nous, quelles sont nos inégalités à nous dans nos sociétés? Parce qu'on a encore des rapports de sexe.
Il faut demander à Véronique Grandpierre, parce qu'elle est tellement habituée à la Mésopotamie que quand elle regarde sa propre société d'aujourd'hui, elle doit voir des vraies différences. par exemple. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en faisant cet aller-retour permanent entre le 3e, 2e millénaire avant et aujourd'hui, en l'occurrence, Véronique Grandpierre ?
La grande différence, j'allais dire, c'est le statut des deux partenaires au sein du mariage. Vous avez un statut égalitaire maintenant, qui s'explique aussi par la conquête des droits de la femme ces dernières années, qui n'existait pas à l'époque. Et ça, c'est fondamental. À partir du moment où, dans un mariage, vous en avez un qui appartient à l'autre, et que ce n'est pas réciproque, là, vous avez quand même une coupure extrême.
Et par exemple, j'étais très intéressé par le chapitre, une partie du chapitre que vous consacrez à l'idée de voiler les femmes, par exemple. J'étais très surpris, effectivement, de voir que lorsque, questions qui sont présentes encore dans nos sociétés ces temps-ci, lorsque une jeune femme est voilée, ça veut dire qu'elle est mariée, elle n'appartient plus à son père, elle appartient désormais à son mari, et que donc se voiler lorsqu'on n'est pas marié devient un crime dans la société mésopotamienne, c'est-à-dire si une prostituée, par exemple, est prise en train de se voiler les cheveux, c'est qu'elle trompe son statut, elle trompe sa nature, et qu'à partir de ce moment-là, ça n'est pas tout à fait normal, Véronique Grandpierre.
C'est un peu plus complexe que ça, parce que seules peuvent être voilées, peuvent sortir voilées, à partir des lois médio-assyriennes, les femmes libres. C'est-à-dire qu'en fait, la prostituée, elle a usurpé, les femmes libres et mariées, elle a usurpé le fait d'être une femme mariée, mais elle a aussi usurpé le fait d'être une femme convenable. Donc c'est aussi un rang social, le fait de porter le voile dans cette société assyrienne. Alors, chez les Assyriens, en l'occurrence.
En revanche, on voit des choses qui nous intéressent. Si aujourd'hui, peut-être, la laitue n'est plus d'un érotisme torride, contrairement à ce qu'elle était comme légume à l'époque babylonienne, parce que j'ai découvert que la laitue était donc un symbole.
La laitue d'eau, oui.
La laitue d'eau était un symbole d'un érotisme torride. Bon, on imagine que ça n'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, on découvre évidemment que le jardin est une métaphore formidable des relations sexuelles, par exemple. Que la grenade est un fruit qui, par sa conformité même, est un fruit qui fait penser à l'amour, en l'occurrence. Et donc, on se dit qu'il y a des choses qui sont encore, dont on est les héritiers très très lointains, mais qui sont encore puisées à cette mythologie babylonienne ou mésopotamienne, Véronique Grandpierre.
Oui, je pense que la métaphore du jardin, on la retrouve un peu partout dans toutes les civilisations, parce que ce jardin... Chez les Babyloniens et les Sumériens, c'est toujours un jardin en fruits, vous noterez. C'est jamais un jardin en fleurs.
Absolument.
On ne compte pas fleurettes aux jeunes filles. Hein. On est direct. Ce qu'on veut, c'est des enfants. C'est moi l'expression. Donc, on va droit au but. Ce jardin, c'est un jardin de fruits. Ça n'est pas un jardin de fleurs.
Et le palmier dattier est d'ailleurs un des plus beaux symboles de ce jardin.
Tout à fait. C'est le symbole à la fois de la vie, c'est de la prospérité. Avec un palmier dattier, on fait tout. Avec le tronc, on peut faire de la construction, on peut aussi faire un peu comme une vis d'Archimède, hein, et donc amener de l'eau d'un endroit à un autre. On peut on peut se servir de ses palmes pour les maisons, on mange les fruits, on donne les noyaux aux cochons. Donc on fait tout avec le palmier dattier. Donc c'est vraiment l'arbre de la prospérité. Par excellence, c'est celui d'ailleurs qui est attaché à la déesse Inanna, Ishtar.
Agnès Walsh, quand vous entendez cela, ça vous fait penser à quoi, justement, vous qui êtes spécialiste de ces questions de mariage, d'adultère dans les périodes plus contemporaines?
Sur les symboles, on reste sur ce genre de symboles, hein, sauf que bon, les arbres sont moins exotiques, mais on a toujours ces images de jardins clos, de choses de ce genre. Alors, c'est sûr que dans nos périodes, dans nos époques plus contemporaines, c'est plus conte et fleurette qui intéresse finalement. Et je pense que là, il y a peut-être...
La métaphore de la fleur plutôt que la métaphore du fruit.
Du fruit, oui. C'est-à-dire qu'on est sorti de cette impression que la sexualité est toujours liée à la fécondité. Il y a eu une rupture chez nous qui est peut-être assez proche d'ailleurs de notre période, de notre époque.
C'est quoi, véritablement... c'est 17e, 18e siècle, c'est quoi?
Oui, déjà, 17e, 18e, où véritablement, on opère une rupture entre sexualité
et
procréation, avec des on essaie d'affiner des techniques de contraception, dont ça, on le sait, ça existe depuis le XVIIe siècle. Bon, des techniques pas du tout efficaces, hein, il faut bien le dire, mais en tout cas, un effort mené par les hommes pour essayer de maîtriser leur fécondité, et du coup, la sexualité prend une autre dimension.
Véronique Grandpierre.
Mais là, c'est peut-être dû aussi au fait que les cinq sens ont une importance différente. Le sens de la vue est moins important chez les Mésopotamiens que le sens de l'ouïe et de la parole, parce que la parole est créatrice. Lorsque l'on prononce les mots, ça fait que les choses sont créées. Donc, si vous prononcez des fleurs, vous allez créer des fleurs. Si vous voulez des enfants, vous prononcez ce qu'il faut faire pour avoir des enfants, de façon très concrète et parfois très crue, parce que le but, c'est que ce soit créé. C'est la parole créatrice. Raison pour laquelle on a des jardins en fruits, parce que le but, c'est d'avoir des enfants, et non pas des jardins en fleurs, qui reviendraient à avoir des fœtus qui ne se développent pas.
Mmh. Agnès Walsh.
Oui, non, je voulais aussi dire aussi qu'il n'y a pas d'interdit proprement dit, apparemment, dans ces sociétés concernant la sexualité ou même l'acte sexuel.
Il n'y a pas de péché de chair.
Il n'y a pas de péché de chair,
non.
Voilà,
péché
exactement.
On est avant.
Là, on est avant
la Christi... pomme.
On est avant la pomme, voilà. Et ça, c'est aussi fondamental.
Oui, Véronique Grandpierre, c'est intéressant, effectivement, cette question-là. C'est-à-dire que ça n'est pas condamnable ou condamné. Donc, que de faire l'amour dans ces sociétés-là, sauf effectivement à ne pas respecter tous ces codes qu'on a bien décrits depuis le début de notre entretien, c'est ça ?
C'est cela. À partir du moment où vous avez fait en sorte d'avoir un héritier légitime, vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, de consentant, à partir du moment où vous ne portez pas atteinte à la propriété d'autrui. La femme étant la propriété d'autrui, la femme mariée étant la propriété d'autrui et la fille étant la propriété de son père.
Alors, il faut dire tout de même, parce que je n'en ai pas cité, mais votre livre est parsemé de magnifiques textes qui ont été traduits par vous ou par d'autres, donc qui nous permettent de nous approcher tout de même d'une littérature qu'on ne connaît peu ou qu'on ne connaît pas. Évidemment, on connaît le Cantique des Cantiques, mais on se dit, avant le Cantique des Cantiques, il y avait tout de même ça. Il y avait « Oh mon chevelu, oh mon chéri, mon chevelu comme un palmier, mon chevelu comme un tamaris touffu, mon ami à la chevelure sextuple, serre-la contre mon sein, oh mon chéri, mon lion à la crinière quadruple, serre-la contre mon sein, mon frère au beau visage, mon chevelu flamboyant, mon chevelu à la toison épaisse. » Parce que les cheveux longs, pour l'homme, étaient un signe de sexualité.
C'est un signe de virilité.
De virilité.
Donc plus on a de cheveux, plus... on a des cheveux longs et plus normalement, on est performant.
Je me suis baigné et lavé, baigné dans le bassin chatoyant et lavé dans la blanche cuve. Dans la cuve, je me suis frotté d'onguent, puis j'ai revêtu mon manteau de reine, reine du ciel et de la terre. Voilà pourquoi je me suis enfermé chez moi. J'ai fardé mes yeux de kohl, mes cheveux ébouriffés, je les ai lustrés sur ma nuque. J'ai peigné mes mèches en désordre. Je sais quelle barrette et épingle à cheveux lui plaisent. Sur ma tête, j'ai rafraîchi ma chevelue crépue. J'ai regroupé mes tresses éparses afin qu'elles recouvrent ma nuque. Je me suis mis des bracelets d'argent aux mains. J'ai attaché autour de mon cou un collier de petites perles et j'ai mis bien en place sur le devant de ma gorge un pendentif. Ça, c'est un texte de séduction d'une certaine façon.
Il faut bien que la jeune fille soit la plus belle possible pour pouvoir séduire la personne qu'elle aimerait bien épouser.
Alors qu'on est en pleine période du mariage pour tous, que sait-on de cette homosexualité, elle existe, elle n'existe pas. On se pose la question de savoir si même Gilgamesh n'avait pas des relations homosexuelles. Dites-vous, Véronique Grandpierre, dans votre livre « Sexe et amour de Sumer à Babylone », en tout cas, c'était condamné, ça n'était pas condamné. On en sait quoi exactement ?
Ça n'était absolument pas condamné à partir du moment où ça ne portait pas atteinte au corps social. Autrement dit, encore une fois, si vous avez fait en sorte d'avoir un fils... donc au corps social de se reproduire, vous avez permis à la société de se développer, vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, à condition que la personne soit consentante.
Hommes et femmes, homosexualité féminine,
homosexualité féminine, homosexualité masculine. On a d'ailleurs de l'iconographie, des plaques en terre cuite qui montrent les deux types de scènes. Et vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Mais il ne faut pas que, si vous vous comportez comme une femme, vous finirez par être traité comme une femme. Or, on a vu que socialement...
Donc c'est le déclassement social.
C'est le déclassement social. Mais si vous le faites de façon ponctuelle et que par ailleurs, vous avez eu un héritier avec votre femme, il n'y a pas de problème.
Et donc, cela, on le sait par les textes et on n'a pas assez dit aussi par toutes ces scènes que vous reproduisez dans votre livre, qui sont des scènes de terre cuite, donc de bas-relief en terre cuite, qui permettent de comprendre, effectivement, il y a des scènes de lit entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, etc., qui permettent de savoir, effectivement, au-delà des textes, quelles étaient, sinon, les pratiques sociales, sexuelles, mais au moins les représentations des pratiques sexuelles.
Oui, parce qu'en fait, on pense que ces plaques étaient nécessaires, étaient utilisées un peu comme certains magazines aujourd'hui ou certains films, de manière à stimuler...
Comme des fresques de bordel à Pompéi, par exemple.
Exactement, exactement. Donc on sait que des relations entre hommes, des relations entre femmes ne sont pas prohibées, elles sont acceptées. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là.
Agnès Bach,
ça n'ira pas dans le cadre d'un mariage, en revanche.
Est-ce que ça n'est pas compliqué, je le disais en ouverture de cet entretien donc, avec Véronique Grandpierre, que de travailler sur cet espace de l'intime, on reviendra sur ce sujet jeudi avec nos invités, cet espace de l'intime qui, lorsqu'il n'est pas redevable de la loi, d'une certaine façon, est quand même un endroit relativement sombre pour l'historienne ou l'historien?
C'est un endroit caché surtout, parce que peut-être pas redevable de la loi, mais de la morale, parce que ce qu'apporte effectivement après ces civilisations sumériennes, voire les civilisations de la Bible, hein, parce que elles ont quand même beaucoup de points communs, le christianisme et les civilisations chrétiennes, c'est la morale. Alors à la limite, c'est peut-être même, je dirais, pire que la loi, puisque c'est une loi normalement intériorisée, hein, qui fait appel à la conscience. Et là, ça devient effectivement quelque chose qui est de l'ordre du formatage, on va dire, hein, des esprits et des cœurs.
Et ça veut donc dire, pour l'historienne ou pour l'historien, une difficulté de s'approcher des pratiques réelles. Parce que ce que nous expliquait Véronique Grandpierre, c'est qu'il y a des archives de la pratique, dit-elle, pour ces périodes-là. Et donc, ces archives de la pratique témoignent, au-delà de la morale, témoigne d'une pratique sexuelle particulière.
Oui, oui.
Alors, quand il s'agit de travailler sur le 18e ou sur le 19e siècle,
alors là,
qu'est-ce qu'on sait si ça n'est pas judiciarisé d'une certaine façon?
Alors, judiciarisé, on connaîtra peut-être pas énormément de choses. Ça dépend ce que les tribunaux sont capables d'exprimer. Hein. Donc ce sont des choses qui sont taboues. Donc on a du mal à les dire, on a du mal à les formuler. Alors cela dit, bon, à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, on a une foultitude
les
de sources.
Les textes du fort intérieur.
Oui, alors dans ce cas-là, il n'y a rien dans les textes du fort intérieur, parce que les textes dits du fort intérieur sont les textes donc, des journaux intimes. Alors déjà, la construction du journal intime, c'est quelque chose qui est lent. Le journal intime est, à partir du 19e siècle, plutôt un journal de jeunes filles qui exprime peu finalement les émois parce qu'il est assez contrôlé par des institutions, notamment les institutions religieuses où les jeunes filles vont. Donc c'est très difficile de trouver des choses. On trouve beaucoup de sentiments. Donc on trouve tout ce qui
est... Tout le contraire de ce qu'a Véronique Grandpierre.
On trouve assez peu finalement de sexe. Alors on trouve du sexe dans des écrits pornographiques qui sont extrêmement intéressants. Mais dans les écrits pornographiques du 18e siècle...
C'est une représentation du sexe.
Oui, donc, mais c'est une représentation sociale en fait. C'est pas pour le sexe. Enfin, ils écrivent effectivement des choses qui ont trait à des pratiques sexuelles qui sont toutes prohibées. Hein. Mais leur discours, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant.
C'est ça, dans particulier, par exemple.
Oui, mais il y en a d'autres qui sont même mieux que ça, je dirais, parce qu'ils ont une... même les petits qu'on n'a pas... qui ont une construction de la société...
Ceux qui ont travaillé d'Arnton, par exemple.
Par exemple, qui ont une construction, une idée de la société, c'est-à-dire que, en fait, les pratiques sexuelles qu'ils décrivent comme étant des pratiques courantes dans un certain milieu servent en réalité à critiquer la société et à appeler à une société différente qui ne soit plus la société d'ancien régime avec une monarchie absolue. C'est ça qui est extrêmement intéressant.
Véronique Grandpierre, tout de même, vous avez de la chance, malgré cet espace de temps qui nous sépare de cette Mésopotamie, d'arriver justement par tous ces moyens à vous approcher, même si on s'en approche, même si on sait très bien que en 3 millénaires ou en 4 millénaires, les pratiques ont énormément changé. Vous approchez justement de cette intimité que certains des historiens du plus contemporain ont du mal à pouvoir cerner.
Oui, c'est la grande particularité de la syriologie et de tout le travail que l'on effectue en Mésopotamie. C'est ces sources de la pratique qui nous apportent une richesse extraordinaire qui n'existe pas ailleurs.
Et cela, vous pensez qu'on peut continuer à y travailler, qu'on aura de nouvelles sources, parce qu'évidemment, les fouilles continuant, on aura peut-être de nouvelles sources, et que à partir de là, on peut encore enrichir ce corpus, parce que déjà, il est assez riche, on l'a vu en vous lisant, mais on peut encore l'enrichir ?
Oh, sans doute, à partir du moment où des tablettes remontent de ces sites, vous pouvez avoir plein d'autres choses. N'oublions pas que c'est sur 3 millénaires, donc ensuite on peut se focaliser sur l'un d'entre eux, sur un seul de ces peuples qui se sont succédés sur ces 3 millénaires.
Et là, faire des distinctions, justement, que vous n'avez pas eu le temps ou la possibilité de faire dans ce livre.
Tout à fait.
Donc, et faire des distinctions entre régions géographiques, périodes chronologiques différentes, pour pouvoir justement permettre d'affiner un peu l'approche de cette sexualité.
Permettre d'affiner l'approche. Ça a déjà été un petit peu fait entre les Assyriens et les Babyloniens. Mais il y a tant d'autres peuples qui se sont implantés sur ce territoire qu'effectivement, ce serait bien de pouvoir, pour chaque peuple, déterminer leur façon de faire. Mais là, je crains que ce soit une vaste entreprise.
Et dans le transfert de ces croyances, de ces pratiques à d'autres peuples, et en particulier d'autres peuples du Moyen-Orient et du Proche-Orient, justement, et donc par l'intermédiaire de la Bible ou par l'intermédiaire du Coran, le transfert possible de certaines pratiques jusqu'à nous, d'une certaine façon, est-ce qu'on a la possibilité d'y réfléchir ou est-ce que ça paraît totalement interdit à l'historienne que vous êtes, en l'occurrence ?
Ce n'est pas interdit à l'historienne que je suis. Et il est vrai que certaines pratiques ou certains interdits ou certains jugements, certaines choses qui, du côté occidental, peuvent peut-être paraître un peu étonnant, se retrouvent du côté proche-oriental. Je pense notamment aux crimes d'honneur qui existent en Mésopotamie et qui existent encore de fait dans certaines parties du monde actuellement.
Merci Véronique Grandpierre d'être venue nous parler pour ouvrir cette semaine donc sur la sexualité et son histoire de votre livre tout récemment paru chez Folio Gallimard qui s'appelle Sexe et amour de Sumer à Babylone. Et merci à vous Agnès Valls de nous avoir rejoint. Alors on peut citer votre histoire de l'adultère, c'était oui. Il y a 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça.
2009.
Voilà, et puis tout récemment, donc oui. Là vous êtes vraiment dans l'actualité, ça oui. S'appelle Où va le mariage et ça vient de sortir chez Fayard, c'est une réflexion d'historienne sur les questions d'évolution récente, c'est ça ?
Exactement, oui.
Merci à toutes les deux, donc, et nous poursuivons notre semaine toute la semaine. Demain, nous traiterons d'une religieuse devenue tenancière de maison de rendez-vous à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'était un documentaire d'Anaïs Kien et de Françoise Camard. Mercredi, nous partirons du côté de l'éducation sexuelle et jeudi, nous nous intéresserons à un sujet que nous avons déjà abordé avec vous deux, à savoir cette question : comment l'historien ou l'historienne peut-il traiter de ses archives de l'intime ? Merci encore. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Alexandre Dang était à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission quand vous le voulez en allant sur votre ordinateur, en la téléchargeant sur www.franceculture.fr. Vous pouvez donc là aussi la télécharger pendant 1 an après sa diffusion, l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, laisser des commentaires et vous ne vous gênez pas de le faire. C'est très bien sur notre site ainsi que sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur un réseau social bien connu, à savoir Facebook, ou encore en me suivant sur Twitter. Merci encore.